Radio Vatican, France et Afrique.
Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de notre programme. Parmi les audiences du pape François samedi, une délégation de l'armée de l'air italienne a été reçue au Vatican à l'occasion du centenaire de son institution, ainsi que la délégation pour le don de la crèche et de l'arbre de Noël de la place Saint-Pierre. Vous aurez des détails dans la semaine du pape. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire où se tient depuis jeudi dernier un congrès sur la restitution du pacte éducatif africain. Nous nous rendrons en Zimbabwe, au Nigeria, entre autres, pour le compte de l'actualité sociopolitique africaine. À l'occasion de la célébration de la Journée des droits de l'homme, un colloque international a été organisé en Côte d'Ivoire pour faire le bilan des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous ferons les points avec notre invité du jour dans la dernière partie de cette édition. Voilà tout pour les titres.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques N'Gol.
Ouvrons cette édition de notre programme avec la semaine du pape présentée par Christian Lossambé.
Le pape François a reçu dans la matinée du samedi une délégation de l'aéronautique militaire italienne qui fête ses 100 ans. Elle était notamment composée de militaires, d'officiers supérieurs et d'aumôniers. Soulignant dans son discours le rôle considérable des forces armées italiennes, l'évêque de Rome s'est attardé sur l'importance du service de l'armée de l'air 100 ans après sa fondation. À une époque où de terribles conflits tourmentent l'humanité, le pape a insisté sur le fait que la recherche, l'innovation et les nouvelles technologies ne doivent jamais être subordonnés à des intérêts de pouvoir ou à des utilisations préjudiciables, mais doivent toujours être orientés vers le bien intégral de l'homme, le développement de tous les peuples et une plus grande justice. Par ailleurs, le pape François a reçu les fidèles ainsi que les autorités ecclésiales et civiles de Rieti et Macra, les deux communes d'origine respectivement de la crèche et du sapin installé place Saint-Pierre. Dans son mot, le pape a encouragé chacun à désirer, dans la contemplation de la crèche, un temps de silence pour écouter ce que Jésus nous dit depuis cette chair singulière qu'est la crèche et de prière pour exprimer la crainte reconnaissante, la tendresse, peut-être les larmes que la crèche suscite en nous. Rappelant l'histoire de la crèche de Greccio, le Saint-Père a eu une pensée pour les habitants de Terre Sainte, réitérant ainsi sa proximité et son soutien spirituel. La semaine du pape a été marquée particulièrement par la célébration de la solennité de l'Immaculée Conception de la Mère du Seigneur, célébrée vendredi 8 décembre. Le pape a récité à cette occasion l'Angélus depuis la fenêtre des appartements pontificaux, avant de se rendre dans l'après-midi à la place d'Espagne pour la traditionnelle prière au pied de la statue de la Vierge Marie. Cette cérémonie a été précédée par une autre, au cours de laquelle le souverain pontife a offert la rose d'or à l'icône de la Vierge Salus Populi Romani. À l'issue de la prière mariale de l'Angélus, le pape a annoncé la prochaine célébration à Rome, les 25 et 26 mai prochains, de la première journée mondiale de l'enfance. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé vendredi évêque du diocèse d'Ilorin au Nigeria, Monseigneur Anselme Pendo Lawani, jusqu'à présent administrateur diocésain de la même circonscription ecclésiastique. Toujours vendredi, le pape a nommé nonce apostolique au Maroc, Monseigneur Alfred Zuereb, jusqu'à présent nonce apostolique en Corée et en Mongolie. Le pape a reçu jeudi les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Il s'agit des représentants du Koweït, de la Nouvelle-Zélande, du Malawi, de la Guinée, de la Suède et du Tchad. Dans son discours adressé à ces nouveaux ambassadeurs, le Saint-Père les a encouragés à œuvrer de manière collaborative pour édifier un monde de paix, de justice et de prospérité pour tous. Par ailleurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation du mouvement des Focolari, le pape François a reçu jeudi ses représentants au Vatican. L'évêque de Rome les a invités à rendre grâce à Dieu pour toutes les œuvres du mouvement, rappelant l'importance de vivre l'évangile en insistant sur l'unité au sein des Focolari, dans l'Église et dans le monde. Le pape François a poursuivi mercredi avec la phase conclusive de son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique, se focalisant sur le primat de l'Esprit-Saint dans l'annonce de l'Évangile. L'Esprit-Saint est celui qui insuffle la créativité apostolique et la simplicité. Il est cette grâce, le don de Dieu, le protagoniste qui précède toujours les missionnaires et fait germer les fruits. Tel est le message qu'a délivré le Saint-Père au cours de l'audience générale de ce mercredi.
Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, séjourne à Dakar au Sénégal. Au cours d'une messe ce samedi, il a procédé à la consécration du sanctuaire marial national Notre-Dame de la Délivrande de Popongéné. En outre, en s'adressant aux journalistes vendredi, le secrétaire d'État du Saint-Siège est revenu sur la relation entre le Saint-Siège et la République du Sénégal, qui date de plus de 60 années, relation diplomatique fondée sur le respect mutuel, la tolérance, la fraternité, mais aussi à travers une action commune centrée sur la dignité et le bien de chaque personne, notamment les plus vulnérables, et sur ses biens, exigences et attentes matérielles et spirituelles. Par ailleurs, le cardinal Parolin rappeler que l'objectif commun, c'est la noble cause de la paix et la justice dans le monde, le souci du sort de l'humanité et de la stabilité, y compris des pays du continent africain, et la recherche permanente d'un dialogue sincère et fraternel pour trouver des solutions pacifiques et justes aux conflits internationaux en cours. Promouvoir une éducation basée sur Dieu, les valeurs humaines culturelles, c'est l'appel adressé aux acteurs de l'école catholique en Afrique par le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda. C'était lors de la messe d'ouverture du Congrès africain sur la restitution du pacte éducatif africain dans l'esprit du pape François, ouvert jeudi 7 décembre à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce congrès, qui prend fin dimanche 10 décembre, se déroule à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan. Suivons la correspondance de Marcel Ariston-Bly.
Lors de leurs différentes allocutions à l'ouverture de ce congrès africain sur la restitution du pacte éducatif africain dans l'esprit du pape François, les participants ont affiché leur volonté d'œuvrer ensemble pour le renforcement et le renouvellement de la contribution de l'Église catholique dans le domaine de l'éducation pour aider l'Afrique à se relever face aux différents maux qu'il a ses coups, à savoir la corruption, les conflits, la mauvaise gouvernance, hypothéquant malheureusement l'avenir de sa jeunesse. Ce congrès, selon Mgr Jacques Asanvo Ayoua, évêque auxiliaire de Boaké, président de la Commission épiscopale pour l'éducation, vient à son heure pour contribuer fortement, pour d'abord nous rappeler notre mission d'éducation dans l'Église. Ouvrant les travaux de cette rencontre de trois jours à Abidjan, Mgr Philippe Rukamba, évêque de Butare au Rwanda, coprésident sud de la Fondation internationale Religion et Société, a qualifié ce pacte d'opportunité, une providence exceptionnelle à travers lequel le pape nous invite à réfléchir ensemble sur les crises qui sont les nôtres. Le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, membre du dicastère pour la culture et l'éducation, président de la messe d'ouverture de ce congrès, a insisté dans son homélie sur l'importance d'une éducation basée sur Dieu, les valeurs humaines, morales et culturelles. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Ouvrons la page de l'actualité sociopolitique africaine. Les bureaux de vote au Zimbabwe ont ouvert samedi selon la commission électorale pour les élections législatives partielles, auxquelles la totalité des candidats de l'opposition ont été interdits de participer. Selon les observateurs, ces élections partielles sans opposants sont la première étape d'une manœuvre du pouvoir pour rafler la majorité des deux tiers au Parlement, avec en ligne de mire une modification de la constitution qui permettrait à Mnangagwa de prolonger son règne en battant la limite des deux mandats présidentiels. La méga raffinerie construite au Nigeria par le milliardaire Aliko Dangote a reçu ses premières barils de pétrole brut, étape importante d'un projet qui a connu des retards et qui ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays, a annoncé la compagnie samedi. C'est une étape importante, a déclaré Aliko Dangote, qui a fondé la Dangote Petroleum Refinery, dans un communiqué publié samedi, en ajoutant que la prochaine grande étape sera de mettre nos produits sur le marché nigérian. Le Nigeria est l'un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, mais il importe la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d'État et les pénuries de carburant empoisonnent le quotidien de ses habitants. Le général Abdourahmane Tiani, qui assure le poste présidentiel au Niger depuis le coup d'état militaire du 26 juillet dernier, a rencontré vendredi le président togolais Faure Gnassingbé à Lomé pour renforcer les relations bilatérales alors que le Niger est asphyxié par les sanctions économiques. Les deux dirigeants ont réaffirmé la volonté d'approfondir la coopération bilatérale et annoncé l'ouverture d'une ambassade du Togo à Niamey, selon un communiqué de la présidence togolaise vendredi soir. Bien que membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Togo a pris plusieurs initiatives pour faire office de médiateur avec le régime militaire nigérien à la demande de ce dernier. La question des sanctions contre Niamey devrait être débattue dimanche à Abuja, la capitale nigériane, à l'occasion du sommet annuel de la CEDEAO. L'ancien premier ministre du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, a été condamné vendredi par la Cour suprême à une peine de prison à perpétuité, notamment pour avoir voulu renverser le gouvernement et avoir menacé la vie du président. Le général Bunyoni, devenu premier ministre en juin 2020, avait été démis de ses fonctions en septembre 2022, quelques jours après que le président Évariste Ndayishimiye eut dénoncé des velléités de coup d'État. La méditation avec les textes du deuxième dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, c'est avec le père jésuite Martin Baati.
Mes chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous continuons à préparer la venue de notre Seigneur Jésus. La première lecture nous invite à la consolation. Consolez, consolez le peuple de Dieu. Le message du prophète Isaïe est un message de soulagement et d'espérance, de joie, de soutien et de confiance. Telle est la bonne nouvelle que le prophète apporte aux exilés d'Israël, tristes, abattus, affligés, découragés. Par ailleurs, il leur annonce la libération et le retour sur la terre de leur père. Le prophète encouragé et donné de l'espoir. Aujourd'hui encore, le message du prophète Isaïe résonne avec foi au fond de nos cœurs. Comment ne pas l'entendre dans notre monde en crise? Sans doute que le bruit des bombes en Ukraine, à Gaza, en République démocratique du Congo, au Soudan, etc., empêcherait le peuple opprimé et massacré d'écouter la voix du prophète Isaïe. L'évangile de Marc débute par l'annonce d'un commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'Évangile nous invite à un renouveau, une renaissance. Pour commencer, Jean le Baptiste nous lance un appel à la conversion et à la repentance pour le pardon de nos péchés. Le temps de l'Avent nous offre cette opportunité pour nous réconcilier avec Dieu. Les Écritures de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invite à regarder notre vie pour voir ce qui doit être amendé afin de permettre au Seigneur d'emprunter le chemin de notre cœur et d'arriver jusqu'à nous. Pendant le moment de nos méditations, nous pouvons nous poser cette triple question tirée des exercices spirituels de Saint Ignace. Qu'ai-je fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Que dois-je faire pour le Seigneur? Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin de préparation et d'attente de la venue de notre Seigneur.
Le 10 décembre se célèbre la Journée des droits de l'homme. L'édition 2023, placée sous le thème « Liberté, égalité et justice pour tous » marque les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, en Côte d'Ivoire, organise un colloque international sur le thème. 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel bilan des droits humains en Afrique? Dans une interview, le père jésuite Fidèle Nguyen-Béré, l'un des organisateurs, nous en parle.
L'objectif visé d'abord, c'est de célébrer cet événement majeur dans l'histoire quand même de l'humanité. Donc il y a 75 ans, un texte était soumis à l'adoption à l'Assemblée générale de l'ONU. Évidemment, ce texte était proposé alors que l'Afrique était encore sous la colonisation. et l'Afrique n'était pas vraiment très représentée, sinon par quelques pays, quatre pays. Mais on voit qu'après l'indépendance, beaucoup de pays, sinon tous les pays africains, ont adopté cette déclaration et même des instruments y référents. Et ils en ont même élaboré un système régional. Donc, c'est tout ça qu'on veut évaluer et voir même comment finalement cette déclaration qui naît alors que l'Afrique est dans la sous-colonisation a aidé finalement dans le processus de décolonisation. C'est vraiment faire un bilan de l'effet de cette déclaration sur le respect et l'état des droits humains en Afrique.
L'édition 2023 de la Journée internationale des droits de l'homme qui marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est placée sous le thème « Liberté, égalité et justice pour tous ». Peut-on admettre que cette Déclaration universelle donne à tous le même droit pour dire que nous sommes tous libres et égaux ?
Comme la Déclaration le dit dans son préambule, c'est un idéal. Ça pose des fondement pour ce qui est proposé à tous les peuples et à toutes les nations à atteindre. Et donc, dans cette perspective, effectivement, personne n'est éliminé puisque justement, elle est universelle et elle insiste qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, quoi qu'elle soit. Et s'il n'y a pas de discrimination, donc tout le monde vraiment est inclus dans ce mouvement de liberté, d'égalité, de justice pour tous. Après, bien sûr, il y a toujours un écart entre un idéal et sa réalisation dans les conditions historiques concrètes. Donc, disons, idéalement, ça concerne tous, mais concrètement, il va y avoir des variances en fonction des contextes, des lieux et des temps.
Quels sont les différents défis à relever selon vous ?
Alors, les défis à relever, encore une fois, si on parle globalement, par exemple, du côté de nous autres Africains, c'est vraiment le premier de ne pas politiser ou d'utiliser les droits de l'homme de manière juste idéologique. Par exemple, les Africains, on sent beaucoup de frustration quand les puissances occidentales utilisent les droits de l'homme juste pour brimer, et quand ce sont leurs intérêts qui les intéressent. Alors que quand leurs intérêts sont menacés, ces puissances occidentales oublient complètement les droits humains. Donc ça, c'est le premier défi, arriver à fédérer la communauté internationale, ici j'entends toutes les nations qui ont signé et qui acceptent les droits de l'homme, disons de le prendre comme idéal et vraiment de s'engager moralement. Ça c'est le défi au niveau international qui concerne toutes les nations du monde. Et puis alors il y a un défi régional, si vous voulez, continental, qui est simplement d'engager les Africains, les États africains à prendre ce texte et les droits humains sérieusement. De les prendre sérieusement, ça veut dire pas simplement dans les textes, ni que ce soit de constitution ou d'autres, mais que ce soit vraiment des textes qui inspirent des politiques, qui changent, qui touchent la vie des gens, respectent la dignité et l'égalité et la liberté des gens. Et ça, c'est un défi fort parce que, effectivement, alors qu'on pensait au moins progresser, par exemple, dans le domaine des droits politiques et civils, on voit quand même une certaine régression dans pas mal de pays. On sent beaucoup les oppositions qui sont brimées, les opposants qui sont tués. On a plus, dans certains pays, les manifestations sont interdites. Donc, et puis, le changement des constitutions, donc l'alternance, et puis les coups d'État qui reviennent. Donc, au niveau continental et régional, quand même, il y a des défis qu'il faut relever. Et puis alors, il y a aussi des défis du point de vue des sociétés civiles des Africains eux-mêmes. Les droits, comme disait quelqu'un, ils s'arrachent. Je crois que c'est Martin Luther King qui le disait, on doit se battre pour les droits. Il ne faut pas non plus être juste des récepteurs des droits. Les gens doivent se battre pour leurs droits. La société civile et les individus doivent s'imprégner de ces droits et les réclamer envers ceux qui veulent les violer. C'est dans ce sens-là, à mon avis, que donc les trois niveaux de défis que cette évaluation conduit.
Vous venez de suivre le père Fidèle Nyembere, enseignant-chercheur au CERAP à Abidjan, Côte d'Ivoire. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les différents programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.